Bonjour à tous, aujourd'hui un podcast qui s'appelle l'enquête psycho-historique en référence au concept de psycho-historicité ou de conscience psycho-historique du site Regard Conscient, site qui s'inspire des travaux d'Alice Miller sur la pédagogie noire et le manque d'éducation émotionnelle et sociale. Voilà, et donc ce podcast, en fait, c'est un podcast qui vous aidera à réfléchir à votre ligne de vie pour mieux comprendre ou mieux avoir conscience de la douleur, de la souffrance, ou bien des dysfonctionnements dans le plaisir, ou bien de la passivité dans le déni, dans votre environnement de vie. Je vais dire ça comme ça. Alors, pour cette partie, pour ce podcast, enquête psychohistorique, il y aura quatre parties: l'analyse de la réalité des faits, la vérification des interprétations, le contrôle des comportements et la conscience des choses entre déni et mémoire. Donc, on va commencer par l'analyse, la première partie, l'analyse de la réalité des faits. Alors, quand j'étais jeune, l'analyse de la réalité des faits, c'était simple, c'était essentiellement la douleur. C'est-à-dire que moi qui suis né au siècle d'avant, à l'époque du Martinet, à mon époque, en fait, tout le monde se taisait et la douleur, c'était essentiellement la maltraitance ordinaire. C'est-à-dire qu'à ma génération, à moi, en fait, nous avions le martinet dans la cuisine. Vous aviez plus de 80% des enfants qui étaient frappés. Et en fait, la problématique du mal-être ou de la souffrance, ça se résumait essentiellement à la douleur, avec la violence directe qui fait mal, donc la violence physique avec les insultes, avec les coups, etc. Aujourd'hui, en fait, on est passé à des choses qui sont beaucoup plus difficiles à repérer, puisqu'en fait, de nos jours, en fait, on est passé maintenant à des choses de l'ordre de la manipulation, de l'aliénation. Vous avez dû entendre parler de l'aliénation familiale. Donc en fait aujourd'hui on est plus dans le domaine du mensonge, où on vous fait croire que ça vous fait du bien et en réalité ça vous fait du mal. Et donc là, pour trier les choses, pour discerner, pour voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon en réalité, en fait il y a un travail qui est d'enquête à faire, qui va être un peu plus difficile. Donc l'analyse de la réalité des faits va être un peu plus compliquée de nos jours. Et donc pour savoir ce qui vous est arrivé entre douleur, plaisir et déni ou mensonge, il va falloir enquêter. Et donc votre ligne de vie, en fait, elle va devoir intégrer plusieurs problématiques. Alors, elle va d'abord, bien sûr, devoir intégrer les sept blessures du cœur pour prendre conscience, donc, comme je vous le rappelle, des manques, absences et carences, premier point, ou bien des chocs, traumas, accidents. C'est-à-dire, les accidents, c'est la douleur qui fait mal, mais de façon accidentelle. Ensuite, pour prendre conscience des abus, humiliations, incestes, harcèlement et tout ce qui est saturation toxique, où il peut y avoir de l'emprise et de la manipulation. Ensuite, pour prendre conscience de tout ce qui est de l'ordre de la négligence, de l'abandon, du laisser-aller, ou bien du je m'en foutisme, je vais dire ça comme ça, ou bien pour prendre conscience de tout ce qui est de l'ordre de la violence psychologique, avec soit des phénomènes de suradaptation, de conditionnement, de lavage de cerveau. Donc là, tout à l'heure, je parlais de l'aliénation familiale, je parlais de tout ce qui est manipulation, avec. Donc un outil à connaître très important, c'est le triangle dramatique de Cartman, pour bien travailler sur les processus de dramatisation entre les drama queens et les drama kings. Je vais appeler ça comme ça. Voilà. Donc là, il va falloir en fait bien voir comment on vous l'a fait à l'envers en termes de plaisir ou de douleur des choses dans un certain déni. Donc les sept blessures du cœur, c'est la première étape pour repérer. Donc vous utilisez la carte universelle des sept émotions, vous regardez les sept blessures du cœur Et vous, sur votre ligne de vie, tout simplement, comme c'est bien précisé dans le livre, le programme en 7 étapes, vous mettez dans le temps, avec soit une date, soit l'âge, vos blessures, et vous nommez les faits, c'est-à-dire vous nommez ce qui concrètement vous est arrivé. Par exemple, Martinet, 5 ans, cuisine, à tel endroit, à tel endroit. Voilà pour les 7 blessures du cœur. Ensuite, dans l'analyse de la réalité des faits, il va falloir ouvrir les yeux donc sur les manipulations concernant le plaisir, les sensations, les émotions. Donc, il va y avoir déjà à noter tout ce qui va être de l'ordre du c'est pour ton bien. Donc, c'est pour ton bien si je te donne ça, je te fais ça. Voilà. Donc, par rapport à ça, il peut y avoir des dysfonctionnements au niveau du parent nourricier. Il peut y avoir, c'est-à-dire du maternage ou du parentage. Il peut y avoir des dysfonctionnements avec la dynamique sauveur-victime-persécuteur, c'est-à-dire des jeux avec la peur, où on va jouer avec le processus de victimisation et de diabolisation. C'est-à-dire qu'on va expliquer, par exemple, à l'enfant que c'est pour son bien, qu'on est gentil. Et on va se positionner en docteur ou en infirmière en expliquant que l'autre est un méchant. Et donc, il va y avoir des processus de dramatisation pour se valoriser comme la personne qui apporte de l'aide, qui soutient, qui sera toujours là, alors qu'en fait, la personne a créé le manque ou bien le stress et qu'elle se positionne comme sauveur ou comme infirmière ou comme docteur pour se valoriser en réalité et puis pour donner le mauvais rôle à un tiers. Voilà, donc ça peut être soit dans un sens, soit dans un autre, mais c'est devenu un classique, notamment avec ce qu'on appelle l'aliénation parentale, où vous avez donc un parent qui va donner le mauvais rôle à l'autre et qui va se donner le beau rôle du sauveur en disant que l'autre est un méchant. Et là, il va y avoir en fait des processus, soit d'exagération, soit de dramatisation, soit carrément de mensonge, où on va en fait raconter des histoires à l'enfant en lui expliquant qu'on est le bon objet, comme on dit en psychanalyse, et que l'autre est le méchant, et qu'on sera toujours là. Donc en fait, on va à la fois créer une dépendance ou un attachement malsain pour l'enfant, et puis on va lui raconter des histoires. Et donc là, en fait, il faut ouvrir les yeux sur ce type de manipulation qui à ma génération à moi n'était pas commun, mais qui aujourd'hui en fait sont devenus un peu monnaie courante. Alors, je vous donne par exemple un exemple. Le truc classique, ça va être un parent qui picole, qui va expliquer qu'il picole à cause de l'autre parent. Donc, il va à la fois se positionner en victime en faisant croire qu'il picole à cause de l'autre parent, sans prendre la responsabilité de son choix de picoler, et en niant en fait la réalité des choses. Et puis ensuite, le parent va se positionner en victime, va dramatiser ou diaboliser l'autre parent, et va se positionner comme la personne qui sera toujours là. Et en fait, ça crée chez l'enfant des angoisses, ça crée chez l'enfant des fausses interprétations, et ça peut aussi manipuler l'enfant par rapport à de la colère ou du ressentiment, et ça va en fait alimenter la destructivité au sein de la famille, c'est-à-dire que ça va alimenter la destruction de la filiation, ça va alimenter le processus de rupture familiale en créant en fait une fusion avec un parent malade et en éloignant un autre parent. Pour des raisons qui sont soit disproportionnées, soit mensongères, quoi. Voilà sur les voilà un point qui sera important. Par rapport à ça, il va falloir donc dans l'analyse de la réalité des faits, il va falloir bien vérifier sa perception des choses en se mettant à la fois à sa place pour soi en termes de blessures, pour vérifier si en fait on a une vraie douleur et à quoi elle est liée. Et puis il va falloir aussi se mettre à la place de l'autre par rapport à la réalité des violences. Est-ce que la personne vous a fait mal en réalité? Est-ce qu'il y a des manipulations ou des mensonges? Voilà, donc en fait, il faut à la fois se mettre à la place de l'autre pour voir si on n'est pas en train d'exagérer, et puis se mettre aussi à la place de soi pour intégrer dans quel. Où est la douleur? C'est-à-dire, est-ce que il y a une douleur du manque? Est-ce qu'il y a une douleur liée à de la manipulation? Est-ce qu'il y a une douleur liée à des violences? Voilà, c'est important de bien moduler les perceptions, à la fois pour soi, pour l'autre et par rapport à l'environnement, ce qu'on appelle les positions perceptuelles, pour vérifier pour percevoir les choses et analyser la réalité des faits. Alors, dans la deuxième partie, la vérification des interprétations, je vous rappelle qu'il faut apprendre les 8 bugs émotionnels pour la gestion des émotions. Donc là, il faut vérifier si les émotions ne sont pas disproportionnées, si on ne remplace pas une émotion par une autre, c'est-à-dire si on ne se mélange pas les pinceaux, s'il n'y a pas des accumulations, des collections de timbres avec saturation, s'il n'y a pas aussi des phénomènes de Bob l'éponge, de contagion, c'est-à-dire est-ce qu'on n'absorbe pas les émotions de l'autre, est-ce qu'il n'y a pas aussi des irrationalités, c'est-à-dire des situations qui sont irrationnelles à cause de peur, notamment des peurs du passé, notamment stress respiratoire, etc., qui créeraient des phénomènes de panique. Est-ce qu'aussi il n'y aurait pas des phénomènes de débug émotionnel liés à des secrets de famille? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on ne serait pas mis au silence par des problématiques de honte, de secrets, de tabous, qui fait que les émotions en fait vont être biaisées? Et aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas donc des projections et des inversions avec des diabolisations de l'autre et puis de l'inversion des rôles et des retournements de situation avec des gens irresponsables qui collent en fait leurs problèmes sur les autres et qui se victimisent de façon abusive. Donc, premier point, on vérifie bien la gestion des émotions et les bugs. Ensuite, au niveau de la conscience des besoins normaux et naturels, on vérifie dans le cadre de nos relations, s'il n'y a pas du déni. Et puis, on travaille aussi sur la dramatisation des relations et on utilise le triangle de Cartman pour vérifier bien la réalité des faits, la responsabilité des personnes, le rôle de chacun et puis les réponses aux problèmes. Est-ce que les réponses aux problèmes sont normales ou est-ce qu'il y a des phénomènes qui nous mettent dans l'impuissance ou dans l'incompréhension. Donc, est-ce qu'il y a de la violence parce que les réponses aux problèmes ne sont pas adaptées du tout? Et puis, dernier point, est-ce que par rapport à la réalité des faits, est-ce qu'il n'y aurait pas du déni, c'est-à-dire il n'y aurait pas de reconnaissance de la mémoire traumatique et donc de manque, d'abus qui n'ont jamais été gérés et qui font qu'il y a maintenant des problèmes dans la famille ou dans nos histoires. Alors voilà pour la vérification des interprétations. Et puis, au niveau du contrôle des comportements, on vérifiera que dans l'enquête psychohistorique, on vérifiera tout ce qui est de l'ordre du cadre et du lien, c'est-à-dire on vérifiera la réalité des comportements limites, on vérifiera la réalité des répétitions empoisonnantes, on vérifiera la réalité des comportements destructeurs et toxiques, on vérifiera la réalité de la bonne volonté de chacun, de la mauvaise foi de certains, et des mensonges et comportements irresponsables. Voilà, dans quelle mesure en fait, là il sera important de discerner où sont les personnes qui se comportent de façon maladive, passive et abusive, où est le silence complice ou trompeur, où sont les mensonges, où est la bonne volonté, où est la mauvaise foi entre manipulation, perversion et inversion des choses. Je vais dire ça comme ça. Donc, dans votre enquête psychohistorique aussi, il faudra intégrer la conscience, donc dernière partie, intégrer la conscience de la mémoire et du déni. Dans quelle mesure vous n'êtes pas en train de fermer les yeux? Dans quelle mesure vous n'êtes pas dans le syndrome Don't Look Up de Netflix? Et donc là, en fait, il est important par rapport au déni de voir dans quelle mesure vous êtes dans un plaisir malsain ou dans une douleur anormale. Dans quelle mesure vous n'êtes pas vous-même dans le mépris des autres, dans le praf, plus rien à foutre. C'est-à-dire que dans nos sociétés, le problème, ça va être souvent le développement du narcissisme, le fait d'être auto-centré, d'être dans le mépris, des autres. Et en fait, c'est comme si on s'était habitué en fait comment dire, à plus avoir suffisamment d'attention par rapport aux autres, à plus suffisamment s'indigner par rapport aux autres. Et donc en fait, nous sommes tous en train de basculer dans ce qu'on appelle à Marseille le seum, c'est-à-dire une forme d'écœurement bête et méchant, où il va y avoir en fait un empoisonnement de nos relations et il va y avoir une tendance à rester, à se replier sur soi, à être auto-centré et puis à ne plus être dans des relations fraternelles, mais au contraire dans des rapports de force où c'est un peu la loi du plus fort, stupidement. Voilà. L'esprit de ce site, c'est plutôt de favoriser l'éducation émotionnelle et sociale pour améliorer les choses dans le bon sens, pour transformer les choses positivement en ayant conscience que bah, personne n'échappe malheureusement à l'analphabétisme émotionnel et au mépris de la douleur intérieure ou la douleur des cœurs. Voilà, donc c'est pas la consommation ou la société de consommation qui va régler le problème, mais c'est plutôt l'éducation émotionnelle et sociale qui va nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants des émotions, les réalités et les conséquences du stress dans nos sociétés, nos tribus, nos organisations et nos familles. Voilà pour cette enquête psychohistorique qui était un peu touffue ou qui était un peu en mode listing, mais j'espère que ça vous donnera un panorama ou une shortlist pour approfondir votre travail sur la ligne de vie. Bon courage à tous pour ce travail et je vous dis à bientôt. Pour info, je le répète, à partir de cette étape-là, on est sur les étapes 3 et 4, là. Il faut bien utiliser le livre, le programme en cette étape, pour travailler par écrit vos étapes avec votre praticien en psychothérapie qui vous accompagne, puisque le programme en cette étape n'est pas à faire seul, c'est un complément ou un booster à votre propre thérapie. Bon courage à tous!